Véronique Vasseur et Gaëlle Aubry vont nous parler de la passe de Saint-Antoine. On aura un petit temps pour poser des questions, mais qu'on va regrouper à la fin de l'ensemble des interventions.
Donc, je vais vous parler de la polyclinique Baudelaire, qui est certes la plus ancienne, mais qui est en perpétuelle évolution. Elle a été créée effectivement par Jacques Lebas, avec Joël Saunière, qui est peut-être dans la salle, en tout cas qui a été invité, et Michael Guézelot. Donc, à la polyclinique Baudelaire, ça n'est pas un ghetto humanitaire, je tiens à le préciser, parce qu'on y tient énormément. On a un public extrêmement mixte, qui vient à la fois des urgences, qui est envoyé par les médecins traitants, soit parce que les médecins traitants ne sont pas remplacés ou sont partis à la retraite et ne sont pas remplacés, puisqu'il y a de moins en moins de généralistes conventionnés dans le secteur. Envoyé aussi par les médecins généralistes parce que le patient n'a plus de droit, n'a plus de sécurité sociale, ou bien parce qu'il a une pathologie trop complexe et qu'il nous repasse le bébé. Voilà, donc les adressages aussi se font beaucoup par toutes les associations qui sont partenaires, et on accueille toutes les personnes qui ne peuvent pas être prises en charge par une autre filière. Alors, la patientèle change énormément. On vous l'a déjà dit, on va vous le redire, mais la précarisation de la société fait qu'on accueille des publics nouveaux, des travailleurs pauvres, des personnes âgées qui ont des retraites minables et qui n'ont pas la possibilité de prendre des mutuelles. Il y a un vieillissement de la population, ça c'est une réalité. Et donc, on prend des patients complexes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une prise en charge globale de la tête aux doigts de pied, médicale, mais aussi sociale, parfois juridique, psychologique. Et on a vu arriver depuis un certain temps un nouveau public avec des femmes enceintes qui arrivent déjà bien avancées, sans aucune prise en charge, des personnes âgées, des mineurs isolés qui sont envoyés par l'aide sociale à l'enfance, et des victimes de violences conjugales et ou politiques, et des sortants de prison. Donc c'est une prise en charge interdisciplinaire, puisqu'on travaille toujours en binôme avec l'infirmière, médecin-infirmière, médecin-assistante sociale. On travaille en fait tous ensemble tout le temps. Voilà, donc... Le patient arrive, il a d'abord un premier entretien infirmier, puis il est passé au médecin, et ensuite le médecin l'envoie à l'assistante sociale s'il y a besoin. Et on a des consultations de spécialité, dermato, psychologue et psychiatre, et violence, nutrition et gynéco qui sont assurées par des généralistes. Et bien sûr, l'accès au plateau technique de l'hôpital. Donc, je passe la parole à Gaëlle, qui est assistante sociale.
Bonjour. Donc, le service social, une plus-value au cœur du dispositif, c'est effectivement... le service social fait entièrement partie intégrante de la prise en charge PASS, du dispositif. C'est le projet initial, d'ailleurs, de, effectivement, Jacques Lebas et Michael Guézelot, qui est assistant social et qui est à l'origine de la création de la PASS. Pour cela, c'est vrai qu'il faut reconnaître que nous avons des moyens en termes de locaux, c'est-à-dire que nous avons un espace qui est bien identifié, qui est signalisé, qui se trouve au cœur de la consultation et qui facilite l'accès aux patients. Le service social est composé de deux assistantes sociales qui travaillent donc sur un temps plein et demi. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Voilà. Et... également d'un secrétariat qui permet de faire un accueil individualisé des patients. Nous prenons également en charge régulièrement des stagiaires dans le cadre de la formation d'assistante sociale. Alors en 2010, plus de 1600 patients ont été accueillis au service social. Cela représente plus de 4000 entretiens qui ont été nécessaires pour permettre un accès aux soins et un accompagnement global pour certains d'entre eux. Les deux tiers des personnes reçues sont des hommes. Nous avons également reçu plus d'une centaine de mineurs de plus de 15 ans. 22% des personnes que nous recevons sont sans domicile, aucun. 47% sont hébergés dans leur famille ou chez des amis dans des situations plus ou moins difficiles. Voilà, également nous avons un certain nombre d'autres données qui sont informatisées, que nous avons intégrées en fait dans le dossier social de façon à pouvoir répondre à des études ou des statistiques. Donc, dans le parcours de soins qui a été établi, l'entretien suit quasiment toujours l'entretien infirmier et la consultation médicale. L'évaluation que nous faisons tient en effet compte des transmissions de l'équipe soignante et prend en considération plusieurs critères qui se rapportent notamment aux conditions de vie et d'hébergement du patient, par qui est-il orienté, ses ressources, s'il est mineur, majeur, sa nationalité, sa date d'arrivée en France, son entourage, son histoire s'il le souhaite. Le diagnostic médical et la prescription du médecin nous permettent de déterminer quelles pourraient être les répercussions de la maladie dans la vie du patient. Par exemple, le besoin d'un régime particulier, des soins infirmiers, un appareillage pour l'apnée du sommeil, des traitements lourds type antirétroviraux et des actions, bien sûr, à mettre en œuvre pour les aider. Donc, ces actions, elles regroupent deux grandes missions qui sont l'accès aux soins, bien sûr, et l'accès aux droits. Donc, ces missions, enfin, l'accès aux soins, en tous les cas, nous avons la possibilité de les prendre en charge par les missions ou non, après suite à l'évaluation du bordereau appelé Baudelaire, qui donnera donc accès aux soins externes, aux prescriptions, en lien étroit avec la pharmacie. C'est également la possibilité de prendre en charge ou non une hospitalisation dans le cadre des soins urgents, donc la circulaire 2005, l'accès à une couverture médicale par la constitution de demandes de CMU ou d'aide médicale d'État, l'information et l'accès aux mutuelles, la récupération des droits auprès de la sécurité sociale. Nous travaillons également étroitement avec le bureau d'accueil de la sécurité sociale de l'hôpital et la transmission, bien sûr, des ouvertures de droits aux traitements externes. Alors c'est vrai qu'on essaye de chiffrer aussi cette récupération de façon plus systématique. C'est également la recherche d'hébergement ou de logement par le biais des CHRS, des appartements de coordination thérapeutique et les recours amiables prévus dans la loi d'ALO. C'est la domiciliation dans des associations pour des personnes qui n'ont pas de logement. C'est l'aide à la régularisation de séjour avec les conseils et le soutien juridique des associations comme l'association Droit d'urgence ou le COMED. C'est également l'aide à la vie quotidienne qui passe par l'orientation vers des vestiaires, douches, aide alimentaire, des dépannages financiers qui sont également possibles grâce à un fonds subventionnel privé. Voilà, donc on a des possibilités. La spécificité de cette prise en charge est de pouvoir adapter l'accompagnement aux problématiques rencontrées et au temps des personnes, que ce soit donc à court terme sur un ou deux entretiens pour permettre l'accès aux soins, et également à plus long terme, l'ouverture des droits à la sécurité sociale. À très long terme, nous avons également des patients qui viennent nous rencontrer sur plusieurs années et que nous essayons d'aider à accéder à une réelle autonomie, à sortir de la rue, à s'insérer socialement ou professionnellement. C'est également des patients que nous voyons revenir après plusieurs années d'absence, des personnes qui ont connu des accidents de la vie et qui, tel un phare dans la nuit, reviennent nous voir. Alors, l'implication des partenaires associatifs et institutionnels se fait donc à plusieurs niveaux. Deux associations proposent une permanence chacune en soirée au sein même de la consultation, donc une consultation hebdomadaire, afin de permettre à un public, soit un public vulnérable, d'avoir accès à des conseils, un soutien juridique gratuitement par l'association Droit d'urgence, également afin d'informer, d'accompagner des femmes en situation de grande fragilité prostituées ou en voie de l'être, parfois atteintes de pathologies graves telles que le VIH, avec l'association Les Amis du Bus des Femmes. Donc notre réseau de partenaires est important sur Paris et l'Île-de-France. Nous dénombrons plus d'une trentaine d'associations, institutions avec lesquelles nous avons des habitudes de travail. Nous avons mis au point avec elles des outils, tels que des fiches de liaison médicales et sociales, avec Médecins du Monde, entre autres, les points Paris Émeraude, les services sociaux de secteur, les associations de personnes âgées, les associations de malades. Des conventions ont également été établies, notamment avec le SAMU social 115, s'agissant en ce qui concerne les lits halte soins de santé. Et depuis presque 3 ans, un partenariat a été établi avec les équipes de prévention de rue des associations Sharon et Aurore, qui accompagnent vers la consultation les publics les plus vulnérables, notamment dans le cadre du dispositif hivernal. De nouveaux partenariats se sont créés plus récemment, par exemple avec Médecins sans frontières pour l'orientation de jeunes Afghans à la rue, ou encore l'aide sociale à l'enfance, qui nous adresse des mineurs isolés ayant besoin de soins. Enfin, nous organisons régulièrement des rencontres avec nos partenaires à la polyclinique ou à l'extérieur.
Alors, les difficultés, je pense que c'est les mêmes difficultés pour les autres PASS, en tout cas pour les autres polycliniques, c'est qu'on n'a pas d'outils d'informatisation, que tout est fait avec des bâtons, donc c'est très très compliqué, on ne peut pas extraire des données, d'où ce référentiel prochain commun à tous les PASS. Donc on n'a pas le financement par les MIGAC est actuellement sur un déclaratif. Et on saupoudre les PASS, pas à leur activité réelle, parce qu'on n'a pas l'outil logistique pour le faire. Alors, on a des problèmes avec les patients, comme vous avez, vous aussi, dans vos PASS, c'est-à-dire une agressivité. On est le deuxième service, après les urgences, à avoir la sécurité anti-malveillance, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont ou alcoolisés ou en manque, qui ne supportent pas d'attendre. On a une barrière linguistique évidente et des parcours médicaux très chaotiques et des gens qui ont des manques de connaissances, qui ne veulent pas avouer qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne comprennent pas tout, il faut faire répéter, enfin, ça prend énormément de temps. On a aussi des patients qui relèvent de la psychiatrie. Alors la psychiatrie d'urgence, c'est les urgences, ça va, on n'a pas trop de problèmes. On a des problèmes avec les demandes de suivi psychiatriques, les prises en charge par les CIMUD qui ne sont absolument pas satisfaisantes et les demandes de produits de substitution auxquelles on répond de façon exceptionnelle. Alors les facilités, on est dans un nouveau bâtiment, tout neuf, très beau, avec les urgences en dessous. Donc les urgences nous envoient ce qui ne relève pas de l'urgence et on pourrait tout à fait augmenter, mais on a un problème, nous, de médecins. Et nous, on leur envoie tout ce qui ne relève pas de chez nous, qui est urgent. Donc, ça marche assez bien. Et on a des liens forts historiques, puisqu'avant, on dépendait de la médecine interne. Et donc, la médecine interne et les maladies infectieuses nous prennent volontiers les patients pour les hospitaliser. Alors, donc, augmentation de la part liée aux urgences, évidente. On peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Augmenter les actions de prévention, pareil. Les sortants de prison, là il y a une vague, on a beaucoup de sortants de prison, on voudrait monter une consultation, mais c'est pareil, c'est toujours les moyens qui manquent. Et les projets, alors une consultation de gériatrie qui va commencer en septembre et une consultation d'orthopédie traumatologie qui commencera probablement aussi en septembre, ça c'est du sûr. Et des consultations de niveau 1, puisque dans le regroupement par les groupements hospitaliers, il y a énormément de services qui vont partir de Saint-Antoine, dont la pneumologie, la gynéco et l'endocrino, et avoir au moins des médecins qui puissent se balader dans les services et éventuellement faire des consultations. Donc le paradoxe, c'est qu'on a augmenté de notre activité de 19%, qu'on a plein de projets, qu'on a un temps qui se réduit, qu'on a des MIGAC qui sont fragiles, et que Simone Veil, encore elle, déclarait que l'espace Baudelaire était un facteur d'économie pour l'hôpital. Elle avait raison en 1994. Le problème, c'est que nous, on ne rapporte rien à l'hôpital. Et qu'on fait faire des économies, certes, à la sécurité sociale, donc à la société, mais pour l'hôpital, on n'est pas extrêmement intéressant. Donc, il faut qu'on continue à exister en ne rapportant pas grand-chose, mais en faisant la mission du service public, qui est quand même de soigner tout le monde. Et c'est, je pense que c'est pour ça qu'on s'est, on s'est tous regroupés en loi 1901, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Voilà.